Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Temps Additionnel. Raphaël, pour vous servir tout au long de cette émission, et toujours évidemment accompagné d'Alexandre, pour nous apporter ses analyses. Adichat, Alexandre, comment ça va?
Adichat, Raphaël, bah écoute, ça va très bien. On peut dire que c'était une belle semaine. Le Stade qui gagne, le TFC qui gagne. Que demander de plus?
Et oui, que demander de plus? Elle est là. Elle est encore là. Cette victoire du TFC. 2-1, c'est magnifique. Ils me font rêver, moi, ces petits. Toujours imprévisibles alors qu'on perdait 1-0 à la mi-temps. On est revenu en l'espace de 4 minutes, grâce déjà au premier but. De la gâchette, comme on le dit si bien à Toulouse. Et comme le dit si bien le speaker du TEF, le numéro 9, Thaïs
Dalinga.
L'action d'après, c'est la recrue hivernale. La dynamite de cette attaque toulousaine, le numéro 37, j'ai nommé Yann Gbo, qui vient assommer les espoirs niçois. On a vu quand même une grosse transformation à la mi-temps. Et on le rappelle, on a battu quand même le 3e, le 4e, le 5e. On peut quand même commencer peut-être à se permettre de rêver de Coupe d'Europe si on continue comme ça. Moi j'espère. Par contre, faut faire gaffe, on est à autant de points de la 9e place, donc de la place juste au-dessus, que de la relégation. Donc attention à cette équipe de Toulouse, on les connaît bien, assez imprévisible. Ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que cette équipe elle prend forme petit à petit, parce qu'on a vu, on l'a dit hein, les semaines dernières, que la perte des cadres de la saison dernière font effet. Et maintenant, on voit un groupe se reconstruire. Donc, on espère garder ce groupe uni et le garder la saison prochaine. Hein. Moi, je pense que ce qui représente le mieux l'évolution du groupe, c'est le milieu de terrain. Spiriz et Siro qui ont fait une évolution formidable. Siro qui était capitaine, qui n'était même pas titulaire en début de saison. Là, qui a un cadre et qui motive ses troupes, on l'a vu. Il tient de la baraque depuis quelques matchs, donc ça c'est beau.
Et ouais, tout à fait Raphaël, surtout que c'est la 3e victoire consécutive de TFC. C'est remarquable. Le TEF a fait une première période brouillon avec un but encaissé, accompagné d'une ambiance silencieuse et un virage brise qui tâton qui chantait peu. Et tout a changé, comme t'as dit, en deuxième période. Le TEF a renversé Nice en 3 minutes, le tout poussé par le public. On fait mieux que lutter pour le maintien en Ligue 1. On renverse depuis 3 matchs déjà les équipes top 5 du championnat. Est-ce dû à la nouvelle tactique de Carles qui, cette fois, est payante? Ou alors, est-ce que la chance nous sourit? Ou bien peut-être que le club a l'intention de revenir en Europe la saison prochaine, comme tu as dit? D'où vient sûrement la motivation et la performance collective qui suit? Je pense que ce sera compliqué, à part si le TFC prévoit de continuer sa série de victoires. Si je dois parler des performances individuelles, pour moi, Yann Gbo, et c'est le joueur du match, toujours efficace face au but, il apporte toujours le danger avec ses accélérations et sa lecture de jeu, ça a payé avec un but. Il est toujours nommé dans l'équipe de la semaine avec une note de 7 sur 10. Warren Kamandi, bon, a eu un instant de lucidité hein, en interceptant le ballon du niçois Romain Perrault. Il a ensuite fait une passe décisive à Thaïs Dalinga qui débloque le compteur. Et je vais conclure cette partie avec Guillaume Rest qui a été brillant. Il a été acteur de ce match en écœurant les niçois avec ses arrêts monstrueux. Je retiens quelques parades où j'avais l'impression qu'il s'était envolé. Mais voilà, bien sûr, il a encaissé un but, mais le but qu'il encaisse part d'une action gag. Il repousse le tir de Guessant, puis le ballon, après avoir touché la jambe du Toulousain Logan Costa, retombe dans les pieds du niçois Terem Moffi qui marque.
C'est vrai que bon, le but niçois, bah, il est assez, c'est un but assez gag. Donc, on peut dire que c'est une victoire méritée du côté du TEF. On avait vu, franchement, contre ces équipes-là, les buts du TEF, ils sont assez remarquables, ils sont assez mérités. Et les buts qu'on prend, ils sont un peu moins mérités. Bah, comme le match, par exemple, contre Benfica, où on prend 2 pénaltys, on se fait sortir d'Europa League sans prendre un but dans le jeu. Donc, c'est assez positif pour la suite. Et comme tu l'as dit, je pense que l'entraîneur a trouvé le bon système de jeu, quoi, en 3-5-2. Donc, en 3-5-2, c'est 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. Et je pense qu'on a le bon équilibre au milieu de terrain et le bon équilibre défensif pour après se projeter vers l'avant parce que on est en contre-attaque, on joue en contre-attaque, un peu à l'image du Real Madrid. On joue en contre-attaque et... Eh bien, c'est comme ça qu'on a marqué, un pressing haut, une efficacité redoutable devant le but, c'est parfait.
Bon, j'avoue, je ne m'attendais pas à ce que tu compares le TFC avec le Real Madrid, c'est vrai que c'est deux institutions différentes, mais bon, c'est vrai que Carles, pour l'instant, a trouvé quelque chose, comme quoi on arrive à gagner les matchs, on espère que ça va durer comme ça, moi je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe, bien sûr.
Exactement, attention à ne pas se voir trop beau, prochain adversaire c'est Le Havre ce week-end, là-bas on le rappelle, on s'était fait remonter, alors qu'on gagnait 1-0 à domicile, on s'était fait remonter 2-1 à la manière de notre victoire ce week-end. Donc attention, on aime bien jouer les grosses équipes parce qu'on est motivé, mais les équipes à notre portée, on a un peu plus de mal. Donc on verra bien, on va faire quand même un petit point sur le classement de la Ligue 1. aucun point sur le classement de la Ligue 1. Bon, PSG est toujours premier évidemment, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le TFC, 29 points, donc à 9 points du 17ème, Metz est de premier relégable. On va pas se mentir, bon, on commence à s'éloigner de cette zone rouge, ça fait quand même plaisir. On joue toujours le maintien, je pense que les mots de Comolier étaient assez clairs. Mais bon, on peut croire quand même à une montée en Europe. Hein. C'est la 6ème place, on le rappelle, donc on est aussi quand même à pas mal de points du 9ème stade de Reims. On verra bien.
Bon, moi j'aime pas trop rêver, mais il faut savoir aussi que si le PSG gagne la Coupe de France et qu'on finit 7ème, j'espère, on peut participer en Conference League.
Exactement, et la Conference League, ça peut sembler à notre portée au vu, enfin, à notre portée, au vu du parcours qu'on a fait en Europa League. Franchement, je pense qu'en Conference League, on peut aller un peu plus loin, on peut peut-être aller titiller le dernier carré si on continue à jouer comme ça, si on apporte des nouvelles recrues et si le groupe continue à bien se solidifier. Ça fait beaucoup de si, mais on peut y croire.
Oui, voilà, on peut y croire.
La Ligue des Champions, de retour pour les amoureux du grand football. On a eu hier soir le match du PSG contre la Real Sociedad et le Bayern contre la Lazio ce soir. C'est l'image de la Ligue des Champions, le Real Madrid qui va devoir confirmer face à Leipzig après sa victoire à l'aller 1-0 à l'extérieur. Et de l'autre côté, on aura le tenant du titre qui fait peur à toute l'Europe avec aussi le retour de Kevin De Bruyne. Ils font très très mal en Première Ligue, c'est bien sûr Manchester City qui affrontera Copenhague et qui devra donc assurer la qualif après la victoire 3-1 au match aller.
C'est vrai que c'est un peu mort pour Copenhague hein, de s'imposer parce qu'il faut, voilà, ils ont gagné 3-1, c'est Manchester City, le champion en titre. Ça va être compliqué pour Copenhague, mais on y croit, c'est le football, tout peut arriver.
Exactement, ça va être un match très intéressant à suivre. On va voir si l'équipe de Copenhague aura l'envie suffisante pour essayer d'accrocher les tenants du titre.
Et pourquoi pas ?
Désormais, c'est l'heure de la tradition, la vraie, on peut le dire maintenant, comme d'habitude. La victoire de nos sadistes, c'est un classique maintenant celle-là. Et celle-ci, elle est importante. De un, parce que c'est contre nos rivaux quand même, les castrés. Mais surtout parce qu'on les a déglingués. Victoire 33-6 à la maison. Un récital rouge et noir sans le moindre essai de Castres. On a un doublé de Malia, doublé qui vient s'ajouter aux trois autres essais toulousains. 5 essais à 0 quand même. Castres qui était quand même 4ème, hein, et n'a pas vu le jour. Donc les Toulousains ont su profiter de leur supériorité numérique vers la 50ème minute. Et donc c'est parfait pour faire le plein de confiance et pour rester accroché au Stade Français, qui lui aussi assure chaque week-end. Le top 4, c'est donc le Stade Français ex-aequo avec le Stade Toulousain avec 55 points, suivi par l'UBB avec 45 points, et enfin Castres, je rappelle, on a déglingué, avec 44 points.
Alors là, Castres n'a rien vu venir, même si le Stade a joué avec l'équipe B, les joueurs n'ont fait preuve d'aucune pitié. On peut dire que le derby ne s'est pas joué de main morte. On a eu le retour du monstre Emmanuel Miafou qui inscrit le deuxième essai toulousain. Il arrive à casser un de plaquage proche de la ligne d'en-but adverse. Le tout aidé par Paul Graou, toujours avec beaucoup d'efficacité et de justesse. On a vu l'écossais polyvalent Blair Kinghorn s'illustrer dans ce match qui n'a raté aucune pénalité. Et Juan Cruz Malia toujours présent en inscrivant un doublé. Magnifique. Donc voilà, le Stade a dominé et je pense qu'on avait également l'avantage de jouer à domicile. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est pour moi ce que le Stade a répondu à Castres. Il faut se rappeler du premier derby de la saison qui s'est soldé par une victoire de Castres sur le score de 31-23. Mais maintenant, cap sur la Catalogne, car c'est là où va jouer le Stade face à l'USAP le 9 mars à Perpignan, au stade Aimé Giral. Ça va être un beau match.
Effectivement, ça va être un beau match. L'USAP qui est un peu moins bien classé que Castres, donc on espère encore un plus gros score. Même si ça va être quand même compliqué à pas prendre à la légère ces joueurs de l'USAP. Ça va être très intéressant.
Après, la dernière fois, j'ai vu Stade Toulousain USAP. Bon, c'est vrai qu'au départ, Toulouse dominait largement. En plus, c'était avec l'équipe A. Et Perpignan est revenu. Hein. Bon, ils n'étaient pas non plus là à vouloir gagner le Stade Toulousain, mais ils étaient très proches quand même.
Donc, attention à cette équipe de l'USAP. 13e sur 14 au top 14, mais très dangereuse face aux grosses équipes. On continue sur le rugby. Les Six Nations, le prochain match, le 10 mars, Pays de Galles. France, on attend une réaction de ces Français quand même assez décevant. Tout au long de ce tournoi à destination, Pays de Galles, ils sont à notre portée, quoi. Donc, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexandre ?
C'est vrai, comme tu dis, le Pays de Galles est en difficulté. Le 15 de France va le voir. Il faut savoir que le Pays de Galles a perdu son dernier match contre l'Irlande. Grosse humiliation. a tenu tête à l'Angleterre, remportée 16-14 par le 15 de la Rose, et qui a failli battre l'Écosse. Donc, on peut dire que le Pays de Galles est un défi pour la France, mais ça ne va pas être facile car ça joue à Cardiff. C'est peut-être à notre portée, mais bon, il faut savoir que la France est un peu mal en point en ce moment. Et en vrai, si on gagne contre le Pays de Galles, ben, ça va permettre de rattraper les points de retard qu'on a par rapport aux Anglais. Mais les Six Nations ne vont pas remporter le trophée. Tu as vu l'écart avec l'Irlande, c'est important.
Ah, c'est sûr, le grand chelem, bah, il est fini déjà depuis le premier match. Donc, ça va être un peu compliqué, mais histoire de relancer la machine, même mentalement, parce que, bah, on sait qu'on l'aura pas. Même le top 2 ou le top 3, ça va être compliqué. Donc, pour le Pays de Galles, faut assurer, pour l'avant-dernier match de ces Six Nations. Alors, on va rester sur les Bleus, on va rester sur le rugby, mais cette fois, pour la première fois sur temps additionnel, on va parler du rugby à 7. On en parle pas mal quand même en ce moment avec la venue d'Antoine Dupont dans cette discipline, notre Toulousain. Cette discipline d'ailleurs qui est olympique et qui est assez proche du rugby à 15 traditionnel. Le tournoi de rugby à 7 donc, qui s'est déroulé à Los Angeles et a vu couronner les Bleus après une très belle épopée en battant la Grande-Bretagne lors du fameux crunch en finale en leur infligeant une rouste 21-0 dans le stade de Los Angeles. Le premier trophée international, des Bleus du rugby à 7 depuis 2005. Ça fait donc 19 ans qu'on n'avait pas gagné. L'avenue d'Antoine Dupont et on gagne. C'est quand même pas mal.
Et ça, c'est beau, hein, comme tu dis. Mais bon, bravo à l'équipe de France d'avoir montré aux autres nations que ce n'était plus la même équipe. Et non pas parce que Dupont est arrivé, même si ça restait une surprise, de voir un joueur de rugby à 15 intégrer cette discipline, mais parce que l'équipe voulait à tout prix marquer le coup en venant, comme tu as dit, infliger une rouste aux Britanniques en finale. Bon, à un peu plus de 4 mois des JO, cette victoire tombe à point nommé pour l'équipe de France qui ne s'était pas qualifiée pour Tokyo, on le rappelle. Et Antoine Dupont, que va-t-il devenir ? Eh bien, il va retourner au stade toulousain pendant que ses équipiers des deux dernières semaines iront à Hong Kong et Singapour et donc retrouvera le groupe 7 pour un stage avant la grande finale de Madrid programmée début juin, puis les JO à la maison.
Autour du MMA maintenant, le divertissement est à l'affiche cette semaine. Le premier combat de cette semaine donc, est un combat qui a démarré grâce à Internet. Donc ce combat opposera, vous l'avez entendu ce jeudi soir à l'Accor Hotel Arena de Paris, Cédric The Best Doumbé, le roi du trash talking contre l'étoile montante du MMA français, j'ai nommé Baïsangour, Baki, Shamsoudinov. C'est le combat le plus attendu par les internautes, hein. Les codes de victoire sont clairement quand même du côté de Cédric. Et Internet semble prédire aussi la même chose, donc en même temps après toute la communication faite par ce dernier, il s'est mis le public dans la poche hein, quand tu réussis à faire crier tout le public « Baki, t'es mort » avant même le début du combat. Bah, ça a son poids dans la balance et mentalement, ça va être dur pour Baki.
Ça va être compliqué, hein. T'as vu quand même le pressing que Doumbé fait à Baki, non mais c'est un truc de fou. Surtout qu'en plus, il a loué une ambulance, il a dit « bon, on va bien s'occuper de toi, je vais t'envoyer à l'hôpital ». Bon voilà, c'est un classique hein, du trash talking, mais imagine s'il perd le combat.
Ah non, franchement, moi je crois que je m'exile au Tombouctou, je deviens moine, je sais pas ce que je fais, mais je disparais de la vie. Mais c'est sûr que non, il a quand même réservé une chambre d'hôpital, Cédric Doumbé. C'est un truc qu'on fait pas souvent quand même, réserver une chambre d'hôpital, donc j'ai hâte, mais là, faut qu'il gagne quand même.
Après, je pense, pour battre Cédric Doumbé, il faut être un peu plus fou que lui, hein, comme
ouais,
tu m'avais dit.
Il faut être beaucoup plus fou que lui pour essayer de rentrer dans sa tête, mais pour moi, le combat, il est déjà fini. Il n'y a pas de réponse de Baki. Ça va être très rigolo. Ça va être très rigolo, mais rappelez-vous, il y a 3 combats, donc le deuxième combat, c'est le lendemain, le 8 mars, il opposera la personne qui a dit
« Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. »
J'ai nommé Francis Ngannou contre le champion de boxe anglaise Anthony Joshua dans la catégorie des poids lourds. Ça va être assez intéressant puisqu'on va voir un Francis Ngannou ben, revanchard. Après sa défaite litigieuse hein, contre Tyson Fury, on a vu les réseaux un peu s'enflammer. Après sa défaite, on va voir la rage de Francis sur le ring le 8 mars. Le troisième combat oppose Dustin Poirier, le top 3 du MMA de la catégorie des poids légers, au guerrier, au commando, au capitaine Benoît Saint-Denis qui a la chance de devenir le chouchou du MMA s'il réussit l'exploit de gagner ce 9 mars. On sait qu'il y a beaucoup d'engouement autour de cet homme. J'ai très hâte.
Alors ouais, son surnom en plus God of War, ça veut tout dire. Hein. Benoît Saint-Denis, c'est la révélation dans le MMA français. Mais surtout qu'en plus là, c'est le duel contre Dustin Poirier. Hein. On se rappelle du chaos qu'il a mis contre Conor McGregor. Laisse tomber.
C'est vraiment un ténor du MMA, donc j'ai très hâte. Là, c'est le divertissement. Je vous ai dit 3 combats en 3 jours. On va se régaler.
Je crois qu'on adore le goût du sang. Hein.
Ah, j'adore ça quand les gens ils se tapent dessus. Le premier Grand Prix de la saison s'est déroulé ce week-end à Bahreïn après des mois de spéculation, des mois d'attente sur cette nouvelle saison de Formule 1. On l'a eu, notre premier Grand Prix qui s'est soldé par la victoire de Max Verstappen hein, pour changer. Donc Super Max qui a déjà commencé à frapper ce week-end en dominant tous ses adversaires. Il a tout pris hein, Max, hein, il a pris la pole position, il s'est jamais fait dépasser même en passant au stand. Il a gagné, il a eu le meilleur tour en piste et il a même pas laissé des miettes à ses adversaires. Sergio Perez, deuxième, et Carlos Sainz.
Radar.
Smooth Operator, troisième, complète le podium comme d'habitude. C'est très fort côté Red Bull. Chez Ferrari, c'est pas mal aussi, hein, quand même, qui sécurise la deuxième place au championnat dès la première course. Avec Sainz, troisième, et Leclerc, quatrième. Donc, on a eu beaucoup de soucis de réglage du côté de Leclerc durant le Grand Prix, qui lui ont fait donc perdre sa seconde place quand même aux qualifications de la veille. Ça va être un peu décevant pour Charles, mais bon, donc un premier GP de la saison sans abandon, c'est assez rare quand même pour le souligner. Et on va faire un petit point quand même sur le résultat de la course juste avant. Donc, Verstappen premier, Perez deuxième, Sainz troisième, Leclerc qui vient compléter ce top 4. Et on a peut-être quand même deux déceptions. Le dernier et l'avant-dernier, c'est des Alpines. C'est un peu décevant, mais bon. La saison est longue.
Mais bon, après, je suis très étonné de voir Max Verstappen remporter le premier Grand Prix. J'aime bien l'ironie parce que c'est faux. Je ne suis pas du tout surpris. Faut pas s'attendre à voir Verstappen courir au milieu du classement. Donc bien joué à Red Bull d'avoir shippé la première et deuxième place de ce Grand Prix. Mais on ne perd pas bredouille, hein, puisque Ferrari est dans la course au titre avec Carlos Sainz, Smooth Operator, qui finit troisième et ramène donc le premier trophée à la maison, à Maranello. Mais j'ai vu un Carlos Sainz qui a été rancunier. Je l'ai remarqué quand il a remporté le duel face à son équipier Charles Leclerc, l'intouchable de Ferrari. Il veut montrer aux dirigeants qu'il est toujours présent et il est prêt à ramener la victoire. Enfin, c'est en quelque sorte un message qu'il a voulu, à mon avis, faire passer en gagnant Bahreïn.
Exactement, je pense que là, il conduit totalement décomplexé vu qu'il n'a plus rien à faire. Il sait que la saison prochaine, ce ne sera pas lui le titulaire. Donc, franchement, un Carlos Sainz au top de sa forme, pour Ferrari à l'heure actuelle, c'est la meilleure chose. Le prochain Grand Prix, c'est dès ce week-end à Jeddah, un circuit urbain avec beaucoup de virages rapides, donc très 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 différent du Grand Prix d'avant. Donc très intéressant de voir les différences d'une semaine sur l'autre, où on peut s'attendre peut-être à des accidents, vu qu'il y a beaucoup de virages rapides et c'est assez serré pour un circuit urbain, et donc beaucoup plus de hasard et de possibilités qu'un pilote ou un autre monte sur la première marche du podium. Le Phoenix qui accroche le PSG 29 partout, ce PSG qui semblait intouchable hein, en début de saison, c'est quand même pas mal si on garde que le score. Mais nos Toulousains, on le rappelle, ils menaient de 7 points en fin de rencontre. Donc du côté Toulousain, on voit plus un match nul quand même comme un exploit d'avoir accroché le premier, l'intouchable PSG. Mais on peut quand même avoir un petit regret parce que la victoire, elle était à notre portée. Hein. Le Phoenix est donc 4e de la Star League, ce qui est quand même pas mal. Et c'est encore mieux quand on sait que ce club, c'est le 13e budget de la D1 masculine d'handball et que les premiers points, c'est les premiers points qu'on lâche à domicile. Et oui, hein, on avait fait que des victoires à domicile depuis ce match.
Aïe, 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 si proche de l'exploit en plus. Mais bon, félicitations au Phoenix d'avoir tenu tête au PSG. C'était un grand match, mais cruel à la fois. On menait 7 buts d'écart quand même. Le PSG aurait pu avoir sa première défaite en Star League. Mais je suis content de voir un Phoenix qui veut s'imposer dans ce championnat, qui n'est pas là pour faire figuration. Le match nul contre le PSG reste quand même un exploit. Ce résultat est précieux pour la course de l'Europe. Et oui, cette musique que vous entendez dans le fond, on l'entendra prochainement si on continue de rééditer ce genre de performance. Mais je ne suis pas sûr qu'on ira en Ligue des Champions. Nantes-Paris ont à eux deux longues séries de matchs sans défaite. Il n'y a que deux places en Ligue des Champions de hand. Mais il y a la EHF European League qui nous attend. Et il y a trois places. Donc il faut continuer comme ça pour pouvoir être européen la saison prochaine. Et on n'oublie pas bien sûr la Coupe de France qui arrive à grands pas et au Palais des Sports de Compense en plus.
L'émission d'aujourd'hui arrive à son terme, on a parlé de beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de victoires, ça m'a fait plaisir, franchement on a fait ça avec le sourire. Donc merci à l'équipe de Radio Esprit Occitanie de nous accueillir toutes les semaines et merci à Alexandre de nous accompagner.
Un grand merci à Radio Esprit Occitanie et comme t'as dit Raph, c'est toujours un plaisir de discuter et d'analyser avec toi.
On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.